Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouveau Step Story, je suis avec Benoît Dubos, fondateur de Grooster. Salut Benoît.
Salut.
Donc avec Grooster, vous êtes expert en génération de leads B2B, vous faites la relation entre votre client et son marché, vous l'aidez à approcher, à atteindre son marché. On enregistre ce podcast aujourd'hui à la permanence du 5e arrondissement. La permanence, c'est un espace de coworking pour les start-upers, pour les étudiants, qui est ouvert toute l'année, 365 jours sur 365. Donc il y a une salle dans le 5e, dans le 14e et dans les 8e, c'est vraiment top. Il y a de l'open space, il y a des salles de réunion, vous pouvez venir en team, tout seul, il y a des espaces silencieux, il y a des espaces pour discuter, il y a tout ce qu'il faut. En plus, c'est un bon endroit pour faire du networking. Benoît, avec toi, dans cet épisode, comme d'habitude, dans la première partie, on va revenir sur ton parcours, ce que tu as fait avant Grooster ou si tu n'as rien fait, c'est ton premier projet ou pas, ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Tu vas avoir l'occasion un peu de me détailler ton profil, de te présenter. Et bien sûr, dans la deuxième partie, comme d'habitude, là, on va vraiment parler de la boîte. Donc, tu vas me présenter le service, le besoin que vous remplissez avec Grooster, quelle forme prend cette offre, comment vous avez, si tu veux, construit le produit. Donc voilà, on va parler de team, on va parler de tout ce qu'il faut. Écoute, je vais te laisser te présenter, c'est parti.
Ok, bah déjà merci beaucoup Bastien de me recevoir, c'est un plaisir. C'est un exercice que j'ai fait quelques fois, mais bon, je pense que j'ai encore de l'expérience à prendre, donc c'est cool, on va faire ça ensemble. Alors pour t'expliquer un petit peu, moi ce que je fais, mon métier c'est d'aider nos clients à trouver leur futur meilleur client. Donc par client, on entend des entreprises. Nous, notre spécialité c'est le B2B, donc c'est le business to business. Ok. On a une expertise première qui est les canaux qu'on appelle outbound. Alors, petite parenthèse, il va y avoir sûrement un petit peu de jargon. Je vais m'efforcer à chaque fois de vulgariser un petit peu.
Ou donner des petites définitions en passant.
De donner des petites définitions et voilà, ça va être l'idée. Et l'outbound, en fait, c'est quoi? C'est tous les canaux de communication qui vont être sortants. C'est-à-dire que c'est l'entreprise démarchante qui va aller contacter proactivement son futur client. Donc nous, ça, c'est notre métier. Et du coup, on va travailler sur des canaux type LinkedIn, le cold emailing, ça va être nos deux expertises premières, et des canaux un petit peu plus exotiques qui vont être, par exemple, l'envoi de lettres postales qu'on peut envoyer de façon automatisée. Donc ça va être vraiment en gros notre cœur de métier et on le décline sous différentes typologies de produits.
D'accord, donc vous êtes là pour instaurer à certaines boîtes, aux entreprises, une manière de générer du lead, des nouvelles stratégies qui vont pouvoir apprendre et exercer avec vous dans un premier lieu et puis après le continuer toute seule en fait. C'est ça l'idée?
Exactement. Alors on a une partie pédagogique en fait, c'est-à-dire qu'on y reviendra après dans le détail, mais on est un organisme de formation, donc on a un format bootcamp où on enseigne nos méthodes et on a aussi un format agence où c'est nous qui définissons les stratégies, les exécutons pour nos clients et on s'occupe de tout en fait, c'est ça l'idée.
D'accord, bon, on va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, comme d'habitude, avant qu'on en vienne à la deuxième partie donc de Grooster, l'entreprise, moi je vais te demander de te présenter ton profil, les expériences que tu as eues avant de créer une boîte dans la génération de leads en B2B et si c'est ton premier projet ou pas, si tu avais investi autant de temps, d'argent, de moyens humains autant que financiers dans un projet et si, on va dire, la création d'une boîte dans ce secteur, c'est une suite logique pour toi.
Ok, allons-y, on y va. Pour te dire, en fait, moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Parce que alors, j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans en région parisienne et j'étais à des années-lumière de penser à l'entrepreneuriat, etc. J'étais très axé art, musique principalement et écriture. Je me prédestinais à l'époque à être journaliste, sauf que j'avais un petit bémol, c'est que j'étais en échec scolaire comme complet et du coup, forcément, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là de prétendre à une carrière intéressante. J'ai eu la chance à 15 ans de partir vivre à l'étranger, donc j'ai vécu 2 ans et demi en Inde et ensuite je suis parti faire mes études en Angleterre. Donc l'Inde, ce changement d'univers, de monde,
de culture,
d'environnement et de culture, en fait ça m'a permis de vraiment me remettre d'aplomb scolairement parlant. J'étais dans le circuit, dans l'éducation, j'étais dans une école française là-bas, okay. En fait, hein. Donc je suis resté dans le système français, mais me sortir du cadre dans lequel j'étais, qui était sûrement un peu toxique à l'époque, ça m'a permis vraiment de me remettre d'aplomb et à partir de là, bah, j'ai pu repartir sur des bases saines, on va dire. Je me prédestinais toujours au journalisme et en fait, en faisant des stages pendant mes études, Et puis en travaillant comme journaliste par la suite, j'ai vite déchanté parce que j'y avais forcément, hein, quand on a 19-20 ans, on assimile le journalisme à une forme de liberté, à un métier profondément libre, le journaliste qui est libre de ses sujets, libre des thématiques qu'il aborde et des angles qu'il aborde. Alors je veux pas pour le coup jeter l'opprobre, hein, sur un métier en entier, mais dans son intégralité, mais en tout cas dans mon cas ça n'a pas été du tout comme ça que ça s'est passé. J'ai vite déchanté et justement c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais ce besoin de liberté qui était assez ancré en fait. Et j'avais vraiment vraiment du mal à me plier à déjà de l'arbitraire et à me plier à une contrainte dans laquelle je me reconnaissais pas et dans laquelle je ne m'épanouissais pas. Donc je me suis vite écarté de ce plan de carrière là et petit à petit en fait pendant ma dernière année d'études donc pendant que je travaillais mon mémoire je me suis mis à me rendre compte à m'intéresser en fait un peu à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Et c'était des schémas mentaux en fait, c'est les schémas mentaux qui m'ont plu, que je retrouvais un petit peu dans la démarche. Je trouvais des parallèles intéressants avec la démarche dans laquelle j'étais à ce moment-là, qui était une démarche de recherche, de réflexion et de traitement de l'information. Et c'était ça qui m'intéressait dans l'entrepreneuriat, en fait, qui m'a assez vite interloqué. C'était justement cette dimension de recherche de marché, de formulation d'hypothèses et de validation de ces hypothèses. Alors au début, pendant les premières années, j'avais vraiment une approche très très théorique, beaucoup plus que pratique de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est ce qui m'a vraiment plombé pendant mon premier projet, hein. J'y reviens juste après. Et à la fin de mes études, donc j'étais en Angleterre, j'ai fait l'équivalent de Sciences Po en fait dans une université anglaise. J'ai eu l'occasion de travailler dans une SS2I. J'étais alors à 1000% junior et c'était assez intéressant parce que j'ai eu la chance d'avoir un poste avec des enjeux qui étaient relativement faibles parce que c'était une SS2I qui tournait, etc.
Est-ce que tu peux définir SS2I pour...
Alors, une SS2I, c'est une société des services, c'est une entreprise des services du numérique en fait. Aujourd'hui, on dit ESN. Donc, c'est une entreprise qui faisait du développement informatique en format agence, on va dire. Et j'avais la chance du coup d'être dans cette petite ESN qui tournait bien, etc. Et donc j'avais un job, de couteau suisse, mais qui n'avait pas encore nécessairement de lame. Donc j'étais là-bas pour en gros faire mes armes de façon complètement assumée. Et du coup, en un an et demi, j'ai pu toucher à énormément de choses. J'ai fait de la communication interne, la communication externe. Il y avait des bureaux en Chine, donc j'ai pu faire de l'intermédiation culturelle. J'ai pu faire du contenu. J'ai pu m'adonner au business development et à la vente. Alors j'étais catastrophique à l'époque. J'étais catastrophique. J'avais même du mal à décrocher le téléphone pour te dire. Et ça a été une première expérience super intéressante. Mais que j'ai dû interrompre parce que j'ai repris mes études un an et demi après. J'ai fait un MBA entrepreneur dans une école de commerce à Paris. Et pendant ce MBA, j'ai pu donc vraiment me confronter à la théorie en fait, déjà entrepreneuriale, avec des gens du métier, des chercheurs aussi, enfin en tout cas des professeurs. Donc c'était plutôt intéressant. J'ai pu aussi... on va dire, ça m'a fait vraiment gagner en maturité parce que je me suis retrouvé dans une promo dont les participants, dont les apprenants étaient en moyenne 15 ans plus âgés que moi. Donc ça a été un gros gain de maturité aussi, c'était très enrichissant à ce niveau-là. Et j'ai pu faire mes armes sur un premier projet qui concrètement n'a jamais vu le jour. Hein. J'ai joué à l'apprenti sorcier en fait et je me suis amusé à faire de la doc et à faire du business plan pendant 6 mois. Okay. Il s'est quasiment jamais rien passé de concret et j'avais l'impression, parce que j'avais lu Lean Startup d'Eric Ries, que j'allais faire une billion dollar company. C'était clairement ça. Donc au final, ça m'a appris beaucoup sur ce qu'il fallait déjà pas faire. Ça m'a appris aussi qu'il fallait avant tout faire. Donc ça m'a fait prendre conscience que l'entrepreneuriat, avant d'être un mind game, d'être un jeu, un jeu purement intellectuel, cette dimension intellectuelle n'était pas sans une exécution qui devait être la plus intense possible. Et c'est clairement cette notion d'exécution qui m'avait manqué à l'époque. Donc bon, ça a été quand même enrichissant, hein, mais ça m'a pas apporté grand-chose. Et très rapidement, après mon MBA, après avoir rendu mon mémoire, etc., j'ai intégré en tant que business developer une entreprise, donc une start-up qui, elle, vendait du business development as a service, en fait. Donc le projet, c'était de déployer des consultants business developers chez des clients, donc start-up, etc. Donc je suis rentré comme business developer au début. Ça m'a appris énormément sur la vente, la prospection, etc. Donc ça m'a vraiment permis de me faire mes armes en vente classique, notamment en génération de leads, en cold call, parce que pendant les premières semaines, j'ai mangé du cold call comme pas possible. Donc cette peur bleue que j'avais du téléphone, j'ai vite dû la
mettre
régler
de côté.
Donc ça a été très enrichissant et très formateur à ce niveau-là. Et j'ai rapidement monté les échelons et au sein de cette expérience que j'ai pu commencer à faire mes armes en automatisation, en marketing, en acquisition en fait, et en ce qu'on appelle le growth. Donc en gros, toutes ces façons non conventionnelles de générer de la croissance et de générer de l'acquisition pour une entreprise. Et donc j'ai pu faire énormément de choses dans cette boîte. Pareil, j'avais ce profil un petit peu couteau suisse, on va dire. Et donc j'ai fait de la formation, j'ai fait énormément de contenu, j'ai fait de la génération de leads, j'ai géré les opérations, j'ai fait un peu de recrutement. Moi, j'en ai fait assez peu, j'étais assez mauvais en recrutement, c'est ça qui me pêche un peu aujourd'hui aussi. Mais voilà. Et de là a découlé directement Grooster, et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Ok, voilà. Et t'avais quel âge du coup quand ça a découlé Grooster ?
Alors Grooster, j'avais 24 ans.
Ok, c'était en quelle année ?
C'était l'année dernière, on a un an.
Ok, d'accord. Et écoute, très belle présentation, il n'y a même pas besoin d'y revenir. Du coup, t'as fait aussi une bonne transition. Maintenant, je pense que c'est le moment de présenter Grooster beaucoup plus en détail, le problème de fond qu'il y a sur le marché, le service que vous remplissez pour résoudre ce pain, vos valeurs. Et alors, tu vas pouvoir me donner comment vous déployez votre service, donc avec les différents axes que vous avez, les différentes offres, si tu veux, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'après, il y a une bonne partie qui arrive dessus. Mais voilà, là, c'est le moment de présenter Grooster de fond en comble.
Ok, ça marche. Alors, par où je vais commencer ? Donc, Grooster, nous, il y a une genèse qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que le projet a été contraint de se lancer beaucoup plus rapidement qu'on l'avait prévu. Donc, on a dû se lancer. Alors, souvent...
Pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu des imprévus financiers financiers et pro qui ont fait qu'on a dû transitionner assez rapidement. En gros, et le timing, c'est pas nécessairement goupillé comme on voulait. Et donc, du coup, C'est assez ironique parce que là où souvent les boîtes ont un problème, ont des retards de lancement et vont plutôt être à la bourre par rapport à leur prévisionnel et à leur business plan.
Vous avez été pressé et hop.
Nous, on a dû se lancer le plus vite possible. Ce qui fait qu'on s'est lancé il y a un an, on avait des compétences, on avait l'envie d'y aller, mais on n'avait rien d'autre en fait, parce qu'on avait un site internet qui était même pas encore fini. Et on n'avait pas d'offres.
On reviendra sur comment vous avez fait le site, etc., etc., bien sûr.
Ok, on y reviendra. Ouais. Mais on n'avait pas d'offres. Mm-hmm. Rien du tout. Ce qui fait qu'on a été contraints de se lancer. Il nous restait à chacun un mois de cash flow et on avait un
c'était
mois
de CSP.
C'était en
quel
mois ? C'était le premier. Alors, c'était en octobre. On s'est lancé en octobre. Et du coup, il nous restait un mois de cash flow. Et on avait un mois du coup pour réussir à se payer, et on a réussi à se payer au bout d'un mois, donc en novembre, d'où mon hésitation en fait pour me refaire un peu la chronologie. Et donc forcément, à l'époque, on n'avait donc rien, on n'avait pas du coup encore cette terminologie agence. On savait juste qu'on était bon dans ce qu'on faisait.
Quoi la valeur perçue que vous envoyez ?
La valeur perçue, c'était de permettre à l'époque à des PME de scaler, donc d'augmenter leur acquisition client.
Ok, voilà. D'accord.
Donc c'était à ça qu'on se prédestinait. On ne voulait pas nécessairement aller travailler avec des startups, en tout cas dans un premier temps. Par la force des choses, aujourd'hui, on s'y rapproche de plus en plus. Mais parce que c'est toujours le marché qui a raison au final. Hein. Mais à l'époque, en tout cas, on s'intéressait plutôt aux PME, qu'on estimait être un marché assez peu servi en fait, en matière au niveau des expertises qui sont les nôtres. Donc on s'est dit, voilà, il y a sûrement un marché à prendre, donc on va y aller. Et donc on s'est dit, en fait, une chose toute simple qui est, on n'a rien, on a du temps, on a de l'envie, donc on va se donner un an pour faire des tests, y aller en mode voilà, test and learn, on teste, on analyse, on apprend, on itère, et on va voir où ça nous mène. Et donc, on s'est dit, bon, bah voilà, d'octobre à octobre, on va faire des trucs et on verra ce que ça donne. Donc, on a commencé, on est allé voir du coup nos premiers clients. On n'avait pas.
Vous les avez trouvés comment?
Alors, il y en avait par différents moyens. Le tout premier, c'était une rencontre que j'avais faite. Donc, on va pas dire du réseau nécessairement parce que c'était pas quelqu'un de mon réseau, mais c'était un lead que j'ai, une opportunité que j'ai générée d'une façon un petit peu. C'était un lead que j'ai généré au hasard en fait, okay. C'est au hasard d'une rencontre avec qui j'ai repris contact pendant cette période justement, qui a été d'ailleurs notre premier client. Et puis ensuite, bah, vu que notre métier c'est l'acquisition client, bah, on s'y est attelé en fait, et nos méthodes, on les a appliquées, on les applique encore aujourd'hui pour nous. Voilà, okay. C'est notre plus gros vecteur de croissance aujourd'hui.
D'accord.
Donc
Vas-y.
Et donc du coup, on a généré nos premières opportunités comme ça, nos premiers rendez-vous, parce que ça, on sait faire. Par contre, bah, c'est moi qui me chargeais du closing à l'époque, donc des rendez-vous. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que j'avais bah, du coup aucun problème pour générer des opportunités, j'avais aucun problème pour faire des premiers calls. Par contre, le closing, j'avais de grosses lacunes en fait, et je l'avais jamais vraiment pratiqué en fait. Ça n'a jamais été dans les rôles qui m'étaient attribués et voilà. Et ça n'a jamais été une nécessité. Ce qui a fait que les premiers rendez-vous sans offre, sans méthodologie et sans expérience en closing ont été plutôt catastrophiques. Mm-hmm. Les quatre premiers ont été assez douloureux.
Mais ça, est-ce que c'était toi personnellement, tu n'avais jamais fait de closing, ou est-ce que c'est le produit qui in fine permettait même pas de closer parce qu'il n'y avait pas de suite logique entre l'accroche si tu veux au moment du lead et puis tout le tunnel jusqu'à closer. Est-ce que c'est toi qui... c'est pas un peu corrélé au produit, tu vois ce que je veux dire?
Ah bah si, complètement. Mais d'ailleurs, complètement, ouais. Pour te dire, hein, notre premier client, donc la personne mm-hmm. dont je t'ai parlé là, il y a quelques minutes, comment ça s'est fait? On lui a fait la présentation. Il m'avait déjà vu à l'œuvre, en fait, par le passé, donc il savait exactement ce que j'étais en mesure de lui apporter. Okay. Donc à ce niveau-là, il était déjà closé. On n'avait pas encore d'offre, donc on lui a formulé en gros ce qu'on comptait faire. À la fin, on lui a formulé une offre, mais c'était limite de l'impro, en fait. Et en débriefant, il nous a dit, bon, bah, écoutez, je suis chaud pour y aller. Par contre, j'ai rien compris à ton offre. Donc, reviens vers moi avec un truc que je comprends et on y va.
Okay, ouais.
Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et notre premier client, on l'a eu comme ça.
Ok, en gros, tu l'as quand même eu à la fin.
Ouais.
Mais c'est le premier gars qui t'a lancé un petit caillou sur la tête pour te dire, attention, là, c'est le feedback. Ton offre, elle n'est pas vraiment structurée à mort.
Il n'y en avait pas, en fait.
J'ai compris que le truc, c'était de l'impro. Je suis content des services, donc je vais y aller. Mais c'est ce qui, toi, t'a permis de te dire, écoute, notre offre, elle est inexistante. Il faut qu'on structure le truc, il faut qu'on peaufine le truc. Et ça a permis de déboucher, in fine.
Exactement. Et donc, du coup, on y est allé. Donc, très, très rapidement, on a trouvé nos deux, trois premiers clients. Ça nous a mis à l'abri. On avait un high ticket à l'époque.
Là, le déploiement, il était comment avec les premiers clients? 100% digital, mais vous les acquérez comment? Parce que là,
alors, on s'est basé sur Paris à l'époque. J'avais pas encore structuré quoi que ce soit, donc je me suis dit, je suis sur Paris. Il y a beaucoup de gens à Paris. Je vais me concentrer du coup sur Paris et quitte à aller les voir sur place, chez eux. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans le métro en fait pendant les premières semaines, les premiers mois.
Okay.
Aujourd'hui, je fais du 100% remote. Okay. Je gère tout au téléphone et ça se passe beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup moins fatigant, beaucoup plus productif. Et en fait, le présentiel, en tout cas, vis-à-vis de mes produits, rencontrer mes clients directement n'a pas nécessairement.
Il n'y a plus vraiment d'intérêt.
Exactement. Mais à l'époque, je me déplaçais.
Et c'est ce qui permet de scale in fine. Si tu voulais voir chaque client, c'est compliqué. C'est impossible de scale.
C'est une perte de temps de fou. Et puis, à un moment donné, c'est un choix à faire en fonction aussi de ton ticket moyen, en fait.
Mm-hmm.
Voilà, si t'es sur du high ticket avec des cycles de vente complexes et longs, effectivement, à un moment donné, va se poser la nécessité d'aller rencontrer ton prospect et ton client par la suite. Mais quand tu es sur des typologies de produits avec des tickets à 3, 4, 3 voire 4 chiffres, le ratio coût-temps penche pas dans le sens d'un ROI très intéressant si tu te déplaces à chaque fois. Donc, c'est notre travail aussi, c'est un autre chantier aujourd'hui, hein, c'est de lisser justement ce cycle de closing. Okay.
Donc, à l'époque, il y avait une offre qui était celle-ci. Aujourd'hui, si je peux introduire, il y a deux axes. Il y a la classe préparatoire en 6 modules qui est gratuite. Ça, pour vous, c'est ce qui fait office d'acquisition. Ouais. Pour ensuite, c'est un espèce de tunnel, rediriger vers le bootcamp. C'est pas encore le moment de détailler tous les modules avec leurs intérêts, etc. Mais voilà, en gros, à l'époque, vous aviez tout simplement, pas besoin de vérifier le marché, bon, un petit peu quand même, mais besoin de démarcher auprès des clients pour voir si ce que vous proposez avec cette exécution-là avait de l'intérêt pour eux. Ça a été concluant, mais après, vous avez vite, pas pivoté, mais changé un petit peu pour dérouler sur deux axes, créer une espèce de tunnel, de l'acquisition gratuite qui a toujours de l'intérêt parce que c'est des modules très intéressants avec de l'expertise, enfin, des outils, des choses qui permettent d'avancer quand même. Mais le but, c'était de... Comment vous avez, si tu veux... Alors, à un moment, il faut trouver comment faire de l'acquisition, mais déboucher de cette offre-là, où tu vas choper chaque client, au début, tu as été déplacé, puis après, tu faisais du call, à créer un truc digital qui te permet de faire office de tunnel pour ensuite déboucher sur un bootcamp. Tu vois, moi, c'est ce changement de... C'est ce pivot, en fait, totalement. Qu'est-ce qui, un jour, a fait ting, il faut qu'on change, sinon, on ne pourra rien faire.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'agence s'est lancée par nécessité. Donc, pour finir un petit peu sur l'agence, nous, notre stratégie sur l'agence, on est toujours une agence hein, aujourd'hui, ça a été de partir d'une offre super large qu'on a très vite abandonnée au bout de quelques mois. Donc, en gros, on faisait un petit peu tout. On proposait en tout cas de faire un petit peu tout. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des frictions avec nos clients parce que au final, il n'y avait qu'une ou deux fonctionnalités qui intéressaient vraiment nos clients. Donc, on s'est assez vite resserré. C'est là que du coup, j'ai compris un des principes clés qui était en fait l'entrepreneuriat. C'est avant tout l'art d'enlever des choses, de savoir soustraire des choses plutôt que d'en ajouter. Donc, on a élagué. On a testé différents modèles. On a testé un modèle à la perf. On a testé différentes choses. Et jusqu'à arriver aujourd'hui à notre modèle.
Au product market fit, en fait.
Au product market fit. Et aujourd'hui, ce product market fit fonctionne extrêmement bien sur l'agence, en tout cas. Donc, on en est content.
Okay.
Donc, voilà, ça, c'est pour finir sur l'agence. Si j'ai un takeaway à donner par rapport à notre expérience sur l'agence, c'est de vraiment se concentrer sur quelques fonctionnalités clés et de réfléchir vraiment à son produit, même si c'est de l'humain, même si c'est de la prestation de service, comme un produit, comme un SaaS en fait. Mm-hmm. Nous, c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, on a nos price box avec des fonctionnalités extrêmement claires en fait. Et le client sait exactement ce qu'il obtient, comment ça va se dérouler et tout est standardisé.
Ok, et ça pour lui, c'est sous quelle forme comment il le sait, ça, si tu veux?
Comment il le sait?
Ces price box, elles se présentent où pour lui?
Elle se présente où? Elle se présente sur notre site. Elle se présente sur notre site. On communique assez peu dessus. En général, on va plutôt parler prix et parler argent pendant nos premiers calls avec nos prospects. Mais comment ça se passe? C'est extrêmement simple en fait. Tu veux que je te parle un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'agence ou pas nécessairement?
Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est peut-être une partie d'après, mais tu veux dire quoi là en vite fait?
Comme notre méthodologie d'onboarding pour nos clients et comment on collabore avec eux.
Alors ça, tu le gardes pour la partie juste d'après. Maintenant, du coup, ok, je pense qu'on a très bien compris ce que vous faisiez. Est-ce que tu es capable en une phrase de me donner la conviction et votre mission de Grooster?
Ça marche. Nous, notre conviction, ça me permet de faire la transition, en tout cas de revenir sur l'académie, c'est que on veut que n'importe qui aujourd'hui qui travaille en B2B soit en mesure de vendre ou de générer des opportunités. On s'est rendu compte que c'était une lacune qui était assez présente en France et on a envie de faire partie des acteurs qui remédient à cette lacune-là qui pèse et qui nuit à beaucoup de monde en fait.
Ok. Voilà. Avant de parler de l'équipe, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me donner classe réparatoire plus bootcamp, le nombre de clients total que vous avez eu?
Ok. Alors, on a historiquement en fait, on a créé le bootcamp. Donc ça s'est fait de façon extrêmement simple. On a eu cette idée-là. Je me suis dit bon je vais m'en charger. j'ai monté un premier programme, j'ai monté un premier test, donc j'ai fait une première session pour valider le format qui était sur une journée, qui était très ambitieux. Sur une journée, ce qu'il y en avait énormément à faire et les gens repartent le soir éclatés parce que c'est très intense. Et ensuite, j'ai fait les premières sessions. Donc à la base, il n'y avait pas encore de classe préparatoire en ligne. Cette partie-là n'existait pas. La vente, au niveau du support digital, il y avait juste une landing page les canaux d'acquisition, c'était uniquement moi qui générais des leads avec LinkedIn et qui closait au téléphone.
Ok, aussi sur LinkedIn, je peux me permettre, sur LinkedIn, tu fais souvent des petits posts qui d'ailleurs ont un engagement assez incroyable où tu mets par exemple des vidéos d'une minute en disant voilà le script que j'ai pour scraper tel truc. Si vous voulez, mon classique, commentez oui ou intéressant en commentaire et je vous l'envoie. Et on voit qu'il y a 300, 400 commentaires, quelque chose comme ça, quoi. Et souvent, bon, c'est un peu ton cœur du métier, donc c'est normal, et pour toi, c'est de la com, mais tu es aussi dans cette démarche d'aller choper du lead un peu aussi comme ça, in fine. Enfin, et puis même de dynamiser le secteur, c'est ton métier, c'est ton cœur du métier, tu postes plein de trucs sur LinkedIn liés à l'acquisition.
Exactement. Tu vois, moi, justement, une de nos valeurs, en tout cas, moi, c'est vraiment une valeur cardinale chez moi, c'est le pay forward. Donne avant tout, en fait. Je suis très content d'avoir cette opportunité-là de donner de la connaissance aux gens, de leur donner des astuces. C'est ce que je fais dans ma newsletter, d'ailleurs, toutes les semaines. Je scanne le marché parce que ça fait partie de mon métier, à la recherche d'outils, de nouvelles techniques, etc. Et toutes les semaines, je partage dans mes posts LinkedIn et dans ma newsletter les outils que j'ai trouvés pour être plus productif, pour générer plus d'opportunités, plus de business, et puis pour au final in fine travailler mieux et plus confortablement, en fait.
Tu nous balanceras des outils tout à l'heure,
carrément.
Si tu veux bien.
Alors du coup, sur l'académie qui est gratuite, donc qui est en libre service, en fait, on partage des cours gratuits. On a passé le cap des 1300 inscrits. On est assez content de ça parce qu'on l'a ouvert seulement il y a un mois et demi, donc c'est très rapide. On va vite passer le cap des 1500. Et là, pour le bootcamp qu'on a lancé il y a 7 mois, on va finir l'année à 120 participants, donc 120 entreprises formées.
Ok, sachant que si moi j'ai regardé un petit peu, il y a à peu près 10 personnes par bootcamp ?
8 personnes.
8 personnes.
Aujourd'hui, au début, on était plus à 10-12.
Okay.
On a fait le choix de réduire la taille pour consacrer un maximum de temps à chaque participant, ce qui a une grosse dimension mentoring et accompagnement sur la journée.
Et il faut, s'il y a trop de personnes, c'est pas possible de prendre chaque personne au cas par cas.
Vu que notre objectif c'est de scaler le truc, on s'est rendu compte que ça se faisait dans la douleur par le formateur. Soit ça se faisait dans la douleur par le formateur, soit ça se faisait au détriment de la qualité de l'accompagnement individuel.
Okay.
Donc on a vraiment fait le choix de se cantonner à 8 personnes maximum.
Okay. Petite partie sur l'équipe et après grosse partie sur l'offre, et là tu vas pouvoir tout me dire. Vous êtes combien chez Brewster aujourd'hui ? On va fonctionner comme ça. Question, petite réponse. Combien ?
On est deux.
Les rôles ?
Alors, il y a moi, je m'occupe, j'ai plutôt le profil CEO,
opérationnel.
Opérationnel sales et produit sur l'académie. Okay. Et Anthony s'occupe et plus sur la partie agence et technique.
Ok. Qui a dev ou comment vous avez fait le site ?
Alors, à la base, c'était Anthony, parce que c'est un de ses métiers. Donc, il faisait toutes les landing pages, etc. Et là, aujourd'hui, on a basculé sur une plateforme que j'ai prise en main, moi. Il aurait pu le faire aussi, mais c'est juste que c'est moi qui m'y suis collé, où on gère absolument tout dessus. Donc, c'est là-dessus que l'académie est hébergée, que nous...
C'est quoi la plateforme, si tu peux dire ?
Ça s'appelle Podia.
Ok.
Je le recommande très chaudement pour à peu près n'importe quelle typologie de business, surtout de l'early stage. Et on gère tout dessus, on gère notre facturation, etc.
Ok, c'est un truc vraiment tout en un, quoi.
C'est tout en un et c'est extrêmement riche et le prix vaut largement... ça vaut largement...
Ça vaut la chandelle, quoi, vaut le détour.
C'est un des outils les plus puissants. On prend les devants sur la question que tu viens de me poser tout à l'heure, mais Podia, ça fait vraiment partie des outils aujourd'hui centraux dans notre business.
Ok. Comment vous travaillez ensemble à deux ? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez tous les jours ? Est-ce que vous faites un point chaque semaine en présentiel ? Est-ce que vous travaillez chacun en remote de votre côté ? Comment ça se passe ?
Alors, on avait l'habitude de se voir régulièrement. Aujourd'hui, on se voit très peu, tout simplement déjà parce que moi, je suis installé à Toulouse depuis février.
Okay.
Et lui à Paris. On collabore énormément pour le coup par Slack. Mmh. On fait des points téléphoniques. Alors, on essaie de s'imposer une rigueur hebdomadaire, mais on n'est pas très rigoureux là-dessus et on finit assez rapidement par se faire des micro-points quotidiens en fait, okay. au téléphone. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et on fonctionne aussi beaucoup par Trello. Donc ça va être mm-hmm. sur Trello qu'on va gérer qu'on va s'assigner des tâches respectivement okay. Et qu'on va gérer l'opération, qu'on va gérer les opérations en fait. Et c'est là que ça va plutôt être pour débattre débattre, échanger, se transmettre des informations comme ça
un sur petit les peu différents sur la canaux
volée. Voilà, un petit peu à la volée en fait.
Ok. Ok, bah écoute, maintenant c'est la partie intéressante de l'offre. On commence par la classe préparatoire, si tu ouais. veux bien, qui Allons-y. Consiste en 6 modules ouais. qui vont inculquer toutes les notions théoriques à maîtriser et introduire aussi à ce qui va se passer dans le bootcamp. C'est ouais. ça ?
Exactement.
Et donc ça, c'est une préparation qui permet de concentrer le lead ou le client à ce qui va se passer sur bootcamp. Est-ce que tu peux me présenter les 6 modules ?
Ouais, carrément. Alors, il y a la classe préparatoire, il y a 6 cours sur l'académie. La classe préparatoire, c'est 3 cours. En fait, pourquoi cette classe préparatoire ? Tout simplement parce que le bootcamp, c'est axé 100% exécution. Donc, toute la partie théorie, on s'est dit, ça serait une perte de temps de faire venir les gens pour ça. Mm-hmm. Parce que y a pas besoin de les faire se déplacer pour manger des slides et écouter quelqu'un parler. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent et qu'ils exécutent. Donc, toute cette partie-là, théorie et toutes les parties plus exécution, mais qui peuvent se faire sous forme de tuto, par exemple, on les a mis
de
façon digitalisée. Disponible sur la classe préparatoire. Okay. La classe préparatoire, c'est quoi du coup ? C'est 3 cours. C'est un cours sur toutes les bases de ce qu'on appelle le growth marketing, donc la méthodologie et les bases de la génération de leads. Par exemple, on a un glossaire d'une trentaine de pages, donc un e-book d'une trentaine de pages là-dedans, où on donne absolument tous les termes clés du domaine.
Okay.
Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a un deuxième cours sur LinkedIn.
Okay.
Donc, on explique pourquoi LinkedIn, pourquoi ça en fait un canal fondamental pour le B2B. On explique comment optimiser son profil aujourd'hui, parce qu'un profil LinkedIn a le potentiel vraiment d'être un canal d'acquisition en lui-même s'il est bien optimisé. Donc, on explique pas à pas comment optimiser
un branding personnel sur son profil, quoi.
Exactement. Exactement. Et puis en plus, quand on fait de la prospection sur LinkedIn, ce qu'on va envoyer, le message qu'on va envoyer va marcher en tandem avec son profil. Donc, c'est fondamental de l'optimiser et de maîtriser ce qu'on a posté sur son profil okay. et de savoir faire, en fait, à ce niveau-là. Et on explique aussi comment s'assurer d'être des petits problèmes de suspension de compte par exemple avec LinkedIn, donc comment être sûr de pérenniser et de sécuriser son compte sur la durée. Donc ça, c'est il y a un petit quiz à la fin pour pouvoir tester ses connaissances.
Okay.
Et on fait et un dernier cours sur le cold emailing, où là on pose les bases du cold emailing. Donc par exemple, on explique la différence entre un email marketing, donc par exemple tout ce qui va être newsletter, et le cold emailing, qui sont deux choses complètement différentes. Donc pour lever un petit peu le voile sur des confusions qui se font un petit peu souvent. Et derrière, on explique comment bien préparer, donc pas à pas avec des tutos pour le cold emailing, parce que c'est une partie un petit peu plus technique en fait que, okay. que LinkedIn en soi.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la classe préparatoire ?
Venez nombreux. Non. Pour le coup, là, cette classe préparatoire, pourquoi je dis ça ? C'est parce que on a fait le choix de la mettre en libre accès, parce que on estime que c'est de la connaissance libre en fait, et on veut qu'un maximum de gens en bénéficient.
Et vous voilà. faites de la com dessus ?
On fait
de la com dessus. Il y a des ads ou pas dessus ?
Il y a pas d'ads dessus.
Okay. C'est organique, on va dire ?
Aujourd'hui, tout ce qu'on fait est organique. Okay. Alors, on est en train de commencer à... On prépare le terrain pour faire de l'ads petit à petit. Mais aujourd'hui, 100% de notre croissance, on la doit à nos canaux, et à de l'organique.
Traction naturelle.
Traction naturelle et les méthodologies, toutes les méthodologies qu'on enseigne et qu'on applique, on les applique pour nous et c'est ce qui génère 100% de notre croissance aujourd'hui.
Maintenant, on passe à la partie présentielle, le bootcamp, qui dure, lui, une journée complète de 9h30 à 18h30. On y retrouve 6 ateliers. Je pense que tu les connais par cœur, tu pourras en revenir en détail là-dessus juste après. 1. Trouver ses prospects sur LinkedIn. 2. Comment écrire pour vendre, tout ce qui est wording, marketing. 3. Automatiser sa prospection sur LinkedIn, donc tout ce qui va être bot, tout ce qui va être script, etc. 4. Retrouver les coordonnées de ses prospects. Bon, petits tools, petits hacks. 5. Lancer sa première campagne de cold emailing. Et 6. Petite conclusion, petit wrap-up de tout, conclusion, c'est ça ?
Exactement. Comment en gros, maintenant, la dernière partie, c'est comment maintenant closer son prospect une fois qu'on l'a généré quoi, et qu'on l'a au téléphone.
Ok. Est-ce que tu veux peut-être revenir sur les 6 ateliers, ce serait intéressant. Deux minutes par chaque atelier. Je te donne chaque atelier. Tu me dis ce qui s'y passe, ce que vous faites en deux minutes. Let's go.
Carrément.
1. Trouver ses prospects sur LinkedIn.
Alors, trouver ses prospects sur LinkedIn, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser la base de données de LinkedIn, qui est la base de données B2B la plus fournie dans le monde. Il y a plus de 600 millions d'utilisateurs dans le monde et presque 20 millions en France, donc c'est considérable. Et on va aller utiliser cette base de données avec des filtres très puissants au max de son potentiel pour aller générer un premier listing ultra qualifié, ultra qualitatif, qui correspond au persona. Donc au cœur de cible de nos participants en fait.
Okay. Voilà. 2. Comment écrire pour vendre ?
Alors pendant cet atelier, on va faire une séance d'écriture tout simplement. Il y en a une le matin, une l'après-midi, donc pour LinkedIn et le cold emailing, où on va tout simplement écrire les premiers messages avec justement nos bonnes pratiques, tous nos meilleurs modèles de messages aussi, pour écrire les meilleurs messages possibles pour activer et générer un maximum de leads.
Ok. 3. Automatiser sa prospection sur LinkedIn.
Alors là, on va prendre en main un outil et on va en découvrir d'autres aussi pour suivre justement la courbe de compétences et la courbe de progression en fait, pour automatiser sa prospection sur LinkedIn et lancer justement sa première campagne le jour même, qui fait que la plupart de nos participants repartent le soir avec leur premier rendez-vous.
Ok. Moment tools, DuckSoup, Phantom Buster.
Alors on n'utilise pas DuckSoup, que perso j'aime pas du tout. Phantom Buster on aime beaucoup, mais on l'utilise pour d'autres choses. Là on va utiliser un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Prospectin pour notre acquisition, pour l'acquisition de nos participants. Donc ils le prennent en main, ils lancent leur première campagne avec cet outil, et on va leur montrer aussi d'autres outils complémentaires qui, comme je te l'ai dit, vont suivre leur courbe de progression en fait.
Ok, pourquoi t'aimes pas DuckSoup?
Parce que DuckSoup fait partie de cette ancienne génération d'outils qu'on appelle extension based, donc des extensions Chrome en fait, qui aujourd'hui sont complètement, ont été repérées par LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn a compris comment repérer ces outils-là et sait très bien les contrecarrer. Et typiquement, DuckSoup est continuellement aujourd'hui en train de patcher l'outil pour éviter à ses utilisateurs,
à ses users de se faire ban, quoi.
D'avoir des soucis, de se faire ban, et ce qui montre en fait que leur technologie est un petit peu archaïque.
Okay.
Et au niveau de la prestation en fait, y a bien mieux qui se fait aujourd'hui. Voilà. Donc
okay.
On n'a jamais été fan de DuckSoup. Et typiquement, avant, on utilisait d'autres outils qu'on n'utilise plus non plus parce que, pareil, ils font partie de cette ancienne génération d'outils, quoi.
4. Voilà. Retrouver les coordonnées de ses prospects.
Alors là, on va voir, découvrir notre outil préféré aujourd'hui pour trouver les emails donc pro et valide de ses prospects.
Mm-hmm.
Donc on va le prendre en main. Ça va nous permettre de générer notre premier listing qualifié de prospects avec les emails pour ce qui vient pour le module d'après. Et on va prendre en main aussi d'autres outils et d'autres méthodes pour trouver des emails par d'autres biens en fait. Notamment, on va voir comment utiliser Google, parce que Google, c'est la plus grosse base de données à laquelle on puisse penser. Hein. Comment utiliser Google pour trouver gratuitement des données, mais ultra intéressantes et ultra qualitatives.
Ok. 5. Ouais. Lancer sa première campagne de cold emailing.
Alors là, tout simplement, on va faire exactement la même chose que sur le module 3, c'est-à-dire qu'on va prendre en main un outil qui va nous permettre d'automatiser sa première campagne de cold email, et les participants repartent avec leur première campagne qui tourne en fait.
Ok, donc en fait, c'est vraiment un bootcamp où les personnes ne viennent pas pour s'asseoir et regarder des slides comme tu l'as dit, c'est ils exécutent au cas par cas sur leur activité et vont repartir avec le wording pour leur projet, les trucs prêts à automatiser leur prospection sur LinkedIn par rapport aux personnes qui veulent cibler, et puis les premiers mails, trouver leur premier prospect, et chaque personne repart avec quelque chose de différent qui correspond à ce projet en fait.
Exactement.
C'est pour ça qu'on ne peut pas être à 20 personnes par bootcamp actuellement en tout cas.
Ça nécessiterait d'avoir plusieurs
plus de
formateurs.
Monde, bien sûr, okay.
Il faudrait juste plusieurs formateurs. Ouais. Là aujourd'hui, en tout cas nous, par le format qu'on a, on n'arrive pas à gérer plus de 8 personnes de façon optimale.
Ok.
Voilà.
Donc les bootcamps, ça se passe dans le 10e arrondissement à Paris.
Ouais.
Peut-être autre part aussi, non ?
À Toulouse.
À aussi. Toulouse, où ça ?
Dans le centre de Toulouse.
Ok, je connais pas du tout Toulouse. Et
pour ceux qui connaissent, c'est à 20 minutes de la gare Matabio, donc c'est vraiment dans le centre.
Ok, il y a un petit truc dont je vais parler juste après, mais alors, les bootcamps, chaque personne qui vient après est accompagnée en illimité, tout
ouais.
le temps,
ouais.
et il y a un Slack qui est privé, où toutes les personnes qui ont participé précédemment à un bootcamp s'y retrouvent.
Exactement.
Voilà. Alors, Dans ce bootcamp, il faut savoir, tu vas pouvoir le dire, que vous donnez une espèce de toolbox où il y a plusieurs outils. Par exemple, on va retrouver tous les outils pour contacter plein de leads par mois, 500 outils testés et triés, des ressources pour, on va dire, maîtriser tout ce qui est croissance d'une entreprise, des scripts pour vendre un lead un outbound, des objets d'email avec des hauts taux d'ouverture, des matrices d'AB testing, du copywriting, des matrices de copywriting, des assembleurs de listes d'email, des boucles, des glossaires de métriques en startup, des matrices de gestion du chiffre d'affaires, de la segmentation. Tout ça, c'est une volonté que vous avez eue de mettre tous ces petits outils donc, qui sont sous forme de Google Doc et de Google Sheets dans une seule box pour le donner à tous vos participants. C'est quoi en fait? C'est quelque chose qu'ils mettent dans leur sac à dos comme ça. C'est un peu... Comment tu l'expliques? Parce que c'est quelque chose de très intéressant. Mais comment tu l'expliques en fait cette toolbox?
Alors en fait, il y a trois typologies d'outils. Il y a les outils qu'on distille au fur et à mesure de la journée, donc qui font partie intégrante du programme. Il y a les outils qu'on utilise en interne, nous-mêmes, et du coup, on les partage parce que ça fait partie intégrante de notre quotidien, nous dont c'est le métier pour le coup, donc pour ceux qui veulent approfondir et pérenniser leur pratique. Et ensuite, il y a les outils un petit peu plus subsidiaires, donc typiquement la matrice de gestion du revenu. Ça fait partie pour le coup des outils complémentaires, donc qui n'ont pas attrait à l'acquisition, mais c'est du goodie en fait.
Et c'est du bonus quoi.
Ouais, c'est vraiment du bonus. Et ça nous fait du coup une toolbox très fournie et très variée. Et les participants du coup ont pas mal de choses à découvrir à posteriori du bootcamp.
Ok. On a compris les offres, à la fois la classe prépa et le bootcamp. Maintenant, c'est quoi votre cœur de cible? À qui s'adressent vraiment toutes ces offres?
Alors, nous, on a...
Bootcamp.
Ouais, le bootcamp. Au niveau des segments de marché...
Donc, alors, en fait, vas-y.
Donc, la typologie de boîte, en fait, c'est extrêmement large, d'accord? On a eu un positionnement... très ouvert volontairement pour justement essayer de voir s'il y a des tendances qui se dessinaient, et aujourd'hui il n'y en a pas en fait. C'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de scale-up qui viennent, il y a beaucoup d'indépendants aussi, mais on a aussi des grosses agences qui sont venues se former chez nous, on a eu des banques d'investissement aussi.
Ça c'est une question après, comment vous travaillez en B2B en bootcamp, mais vas-y. Okay.
On a vraiment des typologies très variées. Ça reste quand même principalement aujourd'hui start-up, faut pas se le cacher. Et après, en fait, on a quatre au niveau de la population qui vient dans nos bootcamps, donc ce qu'on appelle les personas, nous, dans notre jargon. Mm-hmm. On a quatre types de personnes. On a les entrepreneurs et indépendants, donc pour les entreprises early stage, donc jeunes qui commencent à se développer, etc. Donc souvent, c'est l'entrepreneur qui se charge lui-même de l'acquisition client et du commercial qui vient se former. Donc ça, c'est la première, typologie de public. Ensuite, on a les sales et bizdev qui viennent d'eux-mêmes ou alors même qui sont envoyés par leur entreprise. C'est comme ça que ça se passe principalement pour monter en compétence sur ces sujets-là. Ensuite, on a marketing communication. D'accord, donc c'est les responsables marketing et communication qui viennent se former aussi pour mettre en place les stratégies au sein de la boîte. Et ensuite, on a les recruteurs. Donc, on a des recruteurs qui viennent pour justement se former à ces méthodes parce que pour se démarquer en fait tout simplement de leur
okay. pair, quoi. Avec quelle boîte ou organisation vous avez travaillé?
Alors,
parce que sur ton site, on en voit au moins une vingtaine. Est-ce que tu peux me dire peut-être? Prends deux minutes et vas-y.
Alors, on a travaillé, en fait, on a vraiment travaillé avec une typologie assez large de clients, comme je te l'ai dit. Donc principalement, ça va être de la start-up et de la scale-up. Donc, une scale-up, c'est quoi? C'est une start-up qui commence à croître très fortement, qui est en phase d'hypercroissance. Et après, on a eu des publics un peu plus exotiques qu'on ne s'attendait pas nécessairement nous-mêmes à avoir. On a eu des banques d'investissement. On a même eu l'université d'Oxford qui est venue. Donc, on était assez surpris aussi. C'était assez marrant. Et donc, pour le coup, oui, sur le site, il y a pas mal de... Il y a un petit échantillon des boîtes avec lesquelles on a travaillé. Principalement, ça, donc forcément, à chaque fois, c'est des boîtes B2B. Et comme je te l'ai dit, l'idée c'est qu'à chaque fois tout va dépendre en fait de l'organigramme de la boîte. Donc il va y avoir
Ça peut être n'importe quel poste qui s'occupe soit un sale, soit un biz dev, soit l'entrepreneur, soit le CEO, pardon.
Peu importe. Enfin, en fait, l'idée c'est ça va vraiment dépendre de l'organigramme, dans le sens c'est la personne en charge de générer les opportunités qui va s'en charger. Et donc typiquement hier on avait Hello Work. C'est une grosse plateforme de mise en relation, c'est un gros job board en fait, localisé à Rennes. Et typiquement, là, c'est le responsable génération de leads chez eux. Voilà. Donc, okay. Et eux, ils ont un poste dédié. Par contre, il y en a d'autres, ça va être la responsable marketing qui, en parallèle de sa publicité, en parallèle de ses événements, va générer des leads. Voilà. D'autres, ça va être purement très, très orienté sales. Et là, bah, ça va être aux sales de générer eux-mêmes leurs opportunités. Ça va être aux sales de générer eux-mêmes leurs opportunités. Donc, tout va dépendre en fait.
Ok. Petit moment tools dans l'acquisition, petit moment fun. Est-ce que tu peux prendre le maximum de temps que tu as,
ouais.
Le max d'inspi, tous les outils que tu utilises ou tous les outils que tu recommandes pour faire du scrap et de l'acquisition? Tu as une minute et dès que tu n'as plus d'inspi, on arrête.
Ok. Alors, déjà, pour n'importe quelle boîte qui se crée, je recommande Podia parce que ça va, quoi qu'il arrive, ce sera utile. Donc, allez creuser cet outil. C'est PODIA. Ensuite, pour l'acquisition sur LinkedIn, je recommande trois outils. Donc, c'est Prospectin pour commencer. Ensuite, je recommande WeConnect dans un second temps. Et pour finir, je recommande la Growth Machine. Donc ça, c'est vraiment les trois étapes. Enfin, c'est vraiment les trois de... c'est un petit peu comme le level up à chaque fois, quoi. Et tu progresses et tu passes à l'outil suivant. Ensuite, pour trouver des emails qualitatifs, je recommande Cold CRM. Drop Contact aussi est très intéressant parce qu'il permet de nettoyer ses listings. Pour valider ses listes d'emails, je recommande deux outils. Je recommande Zero Bounce et Never Bounce. Never Bounce, pourquoi ? Parce qu'il permet d'analyser ses listings gratuitement. Donc, ça sort un pourcentage et ça dit si le listing vaut la peine d'être nettoyé ou pas. Donc, ça permet d'éviter de cramer des crédits Zero Bounce pour rien. Ensuite, je recommande Google. Parce que j'en parle dans ma newsletter de vendredi, mais justement Google, quand on sait rechercher, quand on sait faire les bonnes requêtes, on peut trouver énormément de choses, plus que n'importe où ailleurs. Pour trouver des informations sur des entreprises, je recommande Société Info. Je recommande Google Sheets. C'est un fondamental et c'est fondamental de savoir l'utiliser, de connaître les bonnes formules. Donc là, de savoir faire un VLOOKUP, de savoir utiliser les regex, etc. Donc sinon, il y a un outil qui s'appelle Google Sheet Add-on qui est extrêmement intéressant et qui permet justement pour les gens qui savent pas, qui maîtrisent pas les formules et les Google Scripts, de bénéficier de toutes ces fonctionnalités là juste en cliquant, etc. Pour les envois d'emails, je recommande Lemlist, qui est l'outil le plus puissant que je connaisse aujourd'hui pour envoyer des campagnes de cold email. Et pour automatiser, je recommande Zapier. Et pour tout ce qui va être récolte de données, j'ai trois outils que je trouve extrêmement puissants, qui vont être complémentaires parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes API et toutes les mêmes fonctionnalités. Je recommande Phantom Buster, Captain Data et Texo. Donc Texo, c'est T-E-X-A-U.
Ok, super intéressant. Avant les petites questions bonus classiques, vous, Grooster, vous avez choisi d'être présent sur quels réseaux sociaux et c'est quoi un peu la stratégie de communication que vous avez définie
Alors, le réseau social déjà aujourd'hui c'est LinkedIn, ok, il n'y en a pas d'autres, d'accord, on a créé des pages entreprises sur Facebook uniquement pour pas que le nom soit pris, mais on n'est absolument pas actif dessus, idem pour Twitter, etc. LinkedIn, bah aujourd'hui LinkedIn, s'il faut mettre ses œufs dans un seul panier, ça, en B2B, ça va être LinkedIn, d'accord ?
En B2B, c'est
juste fondamental en fait. Ça serait du non-sens aujourd'hui de pas y être. Et la ligne directrice et la ligne éditoriale au niveau de la communication, elle n'a pas été définie en fait. Comme pour tout le reste, on a itéré énormément. Et aujourd'hui, bah, ça consiste en quoi? Ça consiste en beaucoup d'outreach. Donc, on contacte beaucoup de gens, beaucoup de prospects, beaucoup de profils qualifiés sur LinkedIn pour briser la glace avec eux et échanger avec eux. Donc, ça, c'est un premier axe de communication. Donc, on applique nos méthodes pour nous. Et le deuxième, c'est qu'on fait chaque semaine du posting, en fait. On poste sur LinkedIn, donc je poste ça en
c'est
mon
ce
nom.
Que, c'est ce, que, c'est ce c'est, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Exactement. Okay. Et ça, c'est aujourd'hui un canal de communication, donc de visibilité et d'acquisition extrêmement intéressant pour nous parce que, bah, de par la méthodologie que j'utilise que j'enseigne d'ailleurs dans l'académie, donc il y a un cours dédié où j'explique exactement comment je fais,
okay.
je génère toutes les semaines des dizaines de milliers de vues sur mes posts et plusieurs centaines de leads à chaque fois. Aujourd'hui, c'est en train de devenir notre canal d'acquisition phare et c'est ce qui nous a permis de passer de 0 à 1300 inscrits sur l'académie en seulement quelques semaines. Et le dernier canal d'acquisition principal, c'est la missive, donc c'est notre newsletter qu'on a sorti il y a à peu près 2 mois et demi et qu'on envoie tous les vendredis après-midi dans laquelle on partage nos trouvailles de la semaine, que ce soit des outils, des ressources ou des hacks pour être plus productif et générer plus de business pour sa boîte.
Ok, question bonus,
ouais.
Est-ce que tu fais de la veille? T'as mis quoi en place pour surveiller un peu ton secteur, ce qui se fait, ce qui commence à arriver aussi?
Alors ce que j'ai mis en place pour faire de la veille, c'est du temps déjà, j'y consacre beaucoup de temps, plusieurs heures par semaine. Dans la veille, je vais aussi englober la partie montée en compétences qui est fondamentale. Je dois consacrer environ une dizaine d'heures par semaine minimum à trouver de nouveaux outils, rechercher de nouveaux usages et à lire et à me documenter sur toutes les sur mathématiques et puis sur toutes les thématiques transversales en fait et satellites qui me permettent de.
Et tu utilises quels outils pour faire de la veille?
Alors pour faire de la veille, déjà il y en a un qui est fondamental, c'est Product Hunt. D'accord. Mmh. Product Hunt, c'est quoi? C'est un outil qui, c'est une plateforme qui fait de la curation d'outils sur lesquels les créateurs d'outils, de SaaS, etc., sur tous les sujets, peuvent venir poster, les partager, et les utilisateurs de Product Hunt votent pour le meilleur outil, pour l'outil qui leur plaît en tout cas, et tous les jours, le meilleur outil est dédié, il y a un classement. Mmh. Donc, il y a un effet un peu sagesse des foules qui fait ressortir déjà tous les outils, mais moi je m'amuse à vraiment aller creuser, voir les outils qui n'ont pas très bien marché et on trouve de belles perles.
Ouais, Product Hunt par Ryan Hoover, effectivement c'est totalement ça. En fait, tous les jours il y a des dizaines d'outils qui sortent, c'est tout le temps du tech, hein. Et on peut upvoter chaque projet, et c'est ouais. Vrai que les projets les plus upvotés après sont mis en avant, mais effectivement on va dire qu'un projet très upvoté il va avoir 800 votes. On va dire. Exactement. Et un moins, bon, il va être entre 10 et 50, mais c'est vrai qu'il y a des choses à 40 qui sont archi intéressantes quand on les cherche vraiment. Quoi. Il y a des beaux trucs qui se perdent, effectivement.
Exactement.
Deuxième question que je pose toujours, ton ressenti sur l'entrepreneuriat. Je m'explique, tu nous as parlé de ton parcours un peu atypique tout à l'heure, que ce n'était pas forcément une suite logique pour toi, en tout cas quand tu étais beaucoup plus jeune. Donc, quand tu as commencé à avoir cette fibre entrepreneuriale, qu'est-ce que tu t'es dit sur l'entrepreneuriat? Ok, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, je vais gérer ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, tu es dans le jus. Qu'est-ce que tu en ressors et c'est quoi, peut-être est-ce que tu avais des a priori qui aujourd'hui sont effacés ou sont confirmés? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce que tu pensais de ton aventure et alors ce que c'est réellement?
Alors, l'entrepreneuriat, en fait, j'ai eu à peu près, il s'est passé à peu près la même chose que pour le journalisme, c'est-à-dire que j'ai pas mal romancé mon futur quotidien d'entrepreneur. Finalement, aujourd'hui, je me suis heurté entre guillemets. C'est des grosses guillemets parce que c'est pas vraiment été une collision. C'est plus que j'ai embrassé ce quotidien-là que je ne connaissais pas avec beaucoup de plaisir. Mais force est de constater qu'effectivement, être entrepreneur, ça demande une intensité au quotidien à laquelle qu'on ne présage pas en fait avant de se lancer. Et clairement, ça demande une certaine solidité déjà mentale. Ça demande clairement d'avoir les reins solides. Après, pour le coup, mon ressenti par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que, pour moi, je définirais pas l'entrepreneuriat me concernant comme une vocation. parce que tout simplement je me connais et je sais que j'ai pas le choix en fait. Je sais, parce que je sais pertinemment que mes CDI ont vocation, enfin, mes hypothétiques CDI ont vocation à rester des CDD vitam aeternam en fait, parce que jamais je resterai stable assez longtemps dans une boîte et sur un projet pour rester pendant même plusieurs années en fait.
Si t'en es pas à la genèse.
Voilà. Donc du coup, je vais être amené à, en tant qu'employé, je serai amené à vagabonder en fait de poste en poste, tout simplement parce que c'est ma personnalité, et c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait des années que je fonctionne comme ça et du coup, j'ai besoin de nouveautés tout le temps en fait. Et l'entrepreneuriat permet cette nouveauté parce que déjà, aucune journée ne se ressemble. Clairement, la fiche de poste, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est plus liquide qu'une fiche de poste d'entrepreneur, surtout early stage, ça n'existe pas. Et ça défierait les lois newtoniennes, quoi. Et du coup, ça permet une polyvalence et ça permet un enrichissement.
Continu, perpétuel.
Mais à la fois en termes de compétences et à la fois aussi mental et j'ai envie de dire spirituel, sans rentrer pas du tout, pas spirituel dans le sens religieux, mais ça permet d'avoir un recul sur pas mal de choses en fait. Parce que le recul, tu es obligé de le prendre constamment, parce que si en tant qu'entrepreneur, tu ne te forces pas à prendre un certain recul quotidiennement, tu te tapes la tête
c'est
contre
difficile.
Les murs.
Alors, il y a vouloir prendre du recul, mais il y a aussi pouvoir. Parce que quand on a la tête dans le guidon, même en équipe, à 2-3, au bout d'un certain temps, c'est assez difficile de prendre un recul qui est objectif et qui est... C'est difficile des fois. Parce qu'on voit dans plein d'entreprises, des personnes qui sont 3 en activité, qui sont dans le guidon depuis un an. Ouais. Tu fais entrer un biz dev expérimenté. En 3 jours, il t'a repéré des choses que les personnes dans le guidon n'ont pas vues du tout.
Exactement.
Et parce qu'il prend un recul avec son expérience et puis avec ses compétences, direct, il sait de cibler les différents leviers qu'il faut activer. Quoi.
Exactement.
Alors c'est vrai que prendre du recul, c'est essentiel, mais des fois, c'est plus compliqué que ça.
Et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le rôle de l'entrepreneur, en early stage, son rôle principal, c'est de faire éclore le truc, d'accord ? Donc c'est l'exécution. Ok, la dimension stratégie, la notion de stratégie à ce moment-là, elle est un petit peu plus secondaire parce que là l'objectif c'est juste de générer du cash et c'est juste de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui bourgeonne et qu'il y ait un début, un semblant de croissance en fait. Par contre ensuite, à mesure que ça prend et à mesure que le marché a été identifié, que le produit tourne, etc., et que là les indicateurs de croissance sont là, le rôle de l'entrepreneur c'est justement de prendre ce recul là. Et ce recul là il est fondamental parce que les gens qui sont au charbon au quotidien, les exécutants n'ont justement par définition pas le loisir de prendre ce recul. Donc le rôle de l'entrepreneur c'est justement de step back et de se poser les bonnes questions. Donc quand on est entrepreneur et qu'on ne prend pas de recul, il y a un gros problème. Donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et en fait, je l'ai compris comment, quand en un an on en est à son troisième simili burnout, parce que justement on a trop la tête dans le guidon pour même manger le midi et même boire un verre d'eau pendant pendant toute la journée, parce qu'on est trop dedans et que ça fait 2 semaines non-stop qu'on est comme ça et qu'on fait des insomnies la nuit parce qu'on a trop de choses en tête. Voilà, au bout d'un moment, tu te dis, c'est absolument nécessaire de changer ma façon de faire. Et donc, c'est un apprentissage dans la douleur, mais c'est fondamental d'avoir cette hygiène mentale, en fait.
Mais écoute.
Hygiène mentale, très bonne chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous recommande.
Ouais qui s'appelle Hygiène mentale.
Ouais.
Ok. Écoute, super conclusion. On arrive à la fin du podcast.
Ouais.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, désireux, curieux d'entrepreneuriat, toutes les personnes aussi qui peuvent être intéressées dans le growth ou dans l'acquisition, en B2B et même en B2C. À suivre Two-Step sur Facebook, sur YouTube, à retrouver les podcasts sur toutes les plateformes de streaming, à suivre les premiers événements qui arrivent dès le 3 décembre. Aussi, surtout, à aller retrouver Grooster sur LinkedIn et sur grooster.fr.com.
Grooster.com.
Vas-y, place tous tes réseaux, place tout ce qu'il faut.
Où alors Alors vous pouvez, alors vous avez plusieurs façons de me joindre. Je suis très dispo. Vous pouvez m'envoyer déjà un mail à Benoît, donc benoit@grooster.co. Vous pouvez aussi nous faire un coucou sur groovster.com et de là, en fait, vous pourrez être dirigé directement sur notre académie, donc académie avec un y.groovster.co, le site de notre agence et le site du bootcamp pour voir un petit peu tout ce qu'on fait. Vous pouvez nous faire nous passer le bonjour dans le chat aussi, et je suis disponible sur LinkedIn, je suis très réactif à Benoît Dubos tout simplement.
Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser une belle note au podcast si vous l'avez apprécié, à suivre Two Step et Groovster. Merci en tout cas beaucoup Benoît d'avoir accepté le podcast et pour le super podcast qu'on a fait aujourd'hui. Je te remercie, je te souhaite aussi, moi je vais continuer à suivre, hein, tu le sais. Et puis voilà, merci aussi beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Au revoir.